Vous écoutez, on lit pour vous.
Conférence sur l'aide apportée à la communauté immigrante et réfugiée LGBTQIA. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 3 août 2024 dans le magazine Fugue. Comment mieux accueillir les immigrants, immigrantes et les réfugiés LGBTQ+? Comment répondre à leurs besoins d'aide et de soutien parfois après un long périple durant lequel ces personnes devaient cacher leur orientation sexuelle ou leur identité de genre? Comment les soutenir aussi alors qu'elles peuvent subir de la discrimination et des préjugés de leur propre communauté ou lorsqu'elles subissent de la discrimination systémique? C'est ce que vont tenter d'expliquer des membres d'AGIR et d'ACCM lors d'une table ronde sur les services et obstacles pour la communauté LGBTQIA+, immigrantes et réfugiés, en partenariat avec Fierté Montréal. C'est une table ronde, une discussion qui se concentre sur les personnes immigrantes ou réfugiées qui se cherchent des services et des appuis pour parler aussi des différents défis et obstacles auxquels ces personnes-là font face, qui vivent peut-être de la discrimination, des préjugés, etc. Nous sommes là pour les aider. Une partie des participants, participantes, raconteront leur récit personnel, leur résilience face aux discriminations, à la stigmatisation, etc., explique Hicham, le coordinateur d'équipe de soutien d'AGIR, Action LGBTQ avec les immigrants, immigrantes et les réfugiés. Les personnes LGBTQIA+, ainsi que les peuples autochtones faisant partie de cette communauté, notamment les personnes réfugiées et immigrantes, peuvent faire face à des défis uniques en matière de santé mentale et sur le plan juridique et social, en lien avec leurs expériences de discrimination, de traumatisme et de déplacement. Cette table ronde exhaustive, organisée par AGIR en collaboration avec ACCM, explorera les obstacles juridiques, sociaux et de santé qui entravent souvent le bien-être et l'intégration des individus de la communauté LGBTQIA+, peut-on lire sur le site de Fierté Montréal. L'an dernier, et ce n'est pas rien, AGIR a soutenu des gens de toutes sortes d'horizons provenant de 76 pays, une majorité venant d'Afrique du Nord, du Mexique, d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Guinée, etc., de Syrie, quelques-uns d'Ukraine aussi, d'expliquer Hicham. Lors de la conférence, certaines personnes viendront témoigner sur leur expérience. Elles parleront de leur récit, de leur résilience. Elles aborderont la discrimination et la stigmatisation qu'elles ont subies, poursuit-il. Cette rencontre vise aussi à mieux faire comprendre les droits et les protections juridiques des personnes réfugiées et immigrantes et à conduire à une meilleure acceptation de ces personnes, y compris dans la communauté LGBTQ+. En plus d'une personne d'AGIR, on retrouvera également sur le panel quelqu'un de l'organisme ACCM, AIDS Community Care Montréal, qui est le seul groupe communautaire VIH-SIDA anglophone à Montréal. AGIR est partenaire avec ACCM en offrant aux personnes de la communauté immigrante et réfugiée LGBTQ+, des ateliers sur la santé sexuelle, sur le VIH, sur les hépatites. L'expertise d'ACCM est reconnue lorsqu'il s'agit de santé sexuelle, de VIH, des ITSS, infections transmissibles par le sexe et par le sang, etc. On a une belle participation des gens en demande d'asile ou d'immigration, continue Hicham. On aborde aussi les questions de comment accéder aux services de santé, comment faire un autotest du VIH, etc. Nous avons un important partenariat avec ACCM. À noter que, justement, AGIR fonctionne en 4 langues. En français, en anglais, en espagnol et en arabe pour mieux accueillir leur clientèle. Ils ont d'ailleurs toujours besoin de bénévoles pour aider les personnes qu'ils reçoivent. On dirige aussi souvent très tôt ces personnes immigrantes ou réfugiées vers les services de francisation afin de les rendre le plus autonomes que possible, rajoute Hicham. Dans notre travail quotidien, et qui est véritablement la colonne vertébrale d'Agir, c'est vraiment le soutien individuel, santé mentale, psychologue, psychiatre, voir comment on peut les accompagner dans leur demande d'asile, avant et après les audiences. C'est un travail de longue haleine, c'est très complexe. Nous sommes les seuls à Montréal et tout le personnel et les bénévoles d'Agir sont dédiés à cette cause et de pouvoir autonomiser les gens, c'est aussi une approche de réponse aux besoins évolutifs de la communauté immigrante ou réfugiée LGBTQ+. Comment aussi on peut créer un environnement inclusif pour toutes ces personnes qui ont souvent vécu un trauma dû à leur déplacement, à ce qu'elles ont vécu comme discrimination ou préjugé. Ce sont des aspects qui seront abordés à la conférence, de conclure Hicham. Info agirmontréal.org. C'était Conférence sur l'aide apportée à la communauté immigrante et réfugiée LGBTQIA. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 3 août 2024 dans le magazine Fugue.
Détecter le cancer des ovaires avant qu'il se propage. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 16 juin 2024 dans La Presse. La lutte contre le cancer des ovaires n'a pas beaucoup progressé dans les dernières décennies. Des chercheurs de l'Université McGill pensent être à la veille d'un grand bond en avant dans ce dossier. Les cancers des ovaires sont généralement détectés très tard, au stade 3, explique Lucie Gilbert, directrice du département d'oncologie de l'Université McGill. Avant, il n'y a pas de symptômes. Chaque année, la Société canadienne du cancer enregistre 1600 cas et 400 décès du cancer du col de l'utérus contre 3000 cas et 2000 décès de cancer des ovaires. La chanteuse Mélanie Renaud, par exemple, est morte en mai du cancer des ovaires à l'âge de 42 ans. Avant le test PAP, le cancer du col de l'utérus était le deuxième parmi les plus meurtriers pour les femmes au Canada, dit la gynécologue spécialisée en oncologie. Aujourd'hui, plus de femmes meurent du cancer des ovaires à Montréal que du cancer du col de l'utérus dans tout le Canada. En 2012, la docteure Gilbert a publié dans le Lancet Oncology une étude qui a changé comment elle voyait le combat contre le cancer des ovaires. Près de 1500 femmes avaient eu un dépistage sanguin et ultrason transvaginal de ce cancer. Nous avons pu améliorer les résultats de la chirurgie pour les cas de cancer des ovaires, mais le stade où il était détecté restait avancé. C'est alors qu'elle a réalisé que le cancer des ovaires migre vers d'autres organes à un stade précoce. Dans le cancer du côlon, par exemple, le patient a des saignements, des douleurs, avant que le cancer sorte du côlon. Le cancer des ovaires passe de l'utérus, des trompes de Fallope, vers l'abdomen, avant de causer des symptômes. Les symptômes sont liés à la présence de métastases du cancer des ovaires dans l'abdomen. Analyse génétique. Pour détecter le cancer des ovaires à un stade précoce, afin de diminuer la mortalité, il faut donc l'attraper quand il ne consiste qu'en quelques cellules dans les ovaires. Les analyses sanguines et les ultrasons ne suffisent pas. Il faut détecter les mutations dans le génome dès qu'elles surviennent, souligne la docteure Lucy Gilbert. Juste avant la pandémie, la docteure Gilbert a lancé le projet DOVE-EE-Gène de diagnostic précoce des cancers des ovaires. Malgré l'interruption due à la pandémie, nous avons recruté 4600 participantes alors que notre objectif était de 3600, dit-elle. Environ 90 % d'entre elles n'avaient pas d'historique familial de cancer des ovaires. Des résultats préliminaires encourageants sont présentés ce printemps aux organismes subventionnaires. Plus d'une vingtaine de mutations sont détectées par les analyses à la suite d'un prélèvement par le vagin. Tous les cancers des ovaires sont causés par des mutations, précise la Dr Gilbert. Depuis l'automne 2013, Québec envisage de recourir à un autotest pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Serait-ce possible pour le cancer des ovaires? Non, parce que si les cellules cancéreuses sont arrivées dans le vagin, où elles peuvent être prélevées par autotest, le cancer est déjà dans un stade avancé. Ce n'est pas le cas pour le cancer du col de l'utérus. Elle salue, par contre, la volonté de Québec de mettre sur pied le programme d'autotest du cancer du col de l'utérus. Le cancer des ovaires touche davantage les catégories socio-économiques plus aisées et qui ont moins d'enfants, ce qui est un facteur protecteur. Mais le cancer du col de l'utérus touche davantage les groupes plus défavorisés. Souvent, ce sont des femmes qui n'ont pas de médecin ou de temps pour voir le médecin et avoir un test PAP. Si on leur envoie un autotest facile à faire, avec un suivi téléphonique, ça devrait augmenter le taux de dépistage. Je crois que le Québec sera un leader sur ce point. Détecter le cancer sur une carte de crédit? De l'autre côté de l'Atlantique, un biologiste du Collège impérial de Londres essaie une autre approche. Début 2023, dans la revue JMIR Public Health and Surveillance, il a montré qu'il est possible de prédire un diagnostic de cancer des ovaires à partir des données d'achat par carte de crédit. Les achats d'antidouleurs et d'antiacides augmentent dans les mois ou les années précédant un diagnostic, dit James Flanagan, auteur principal de l'étude. Nous tentons maintenant de voir comment faire une étude prospective. Il y a évidemment des problèmes éthiques importants. Il faudrait avoir accès aux données d'achat de milliers de femmes pour prouver que c'est une approche valable. La Dr Gilbert n'est pas convaincue que cette approche tiendra la route. Quand une femme a des douleurs, le cancer des ovaires a déjà migré vers d'autres organes. Alors, je ne pense pas que ça permettra de détecter des cancers à un stade précoce. En savoir plus. Source : Société canadienne du cancer. 40 200. Nombre annuel de décès du cancer chez les femmes au Canada. 9 800. Nombre annuel de décès du cancer du poumon chez les femmes au Canada. 5 400. Nombre annuel de décès du cancer du sein chez les femmes au Canada. C'était détecter le cancer des ovaires avant qu'il se propage. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 16 juin 2024 dans La Presse.
Le corps, une machine conçue pour la course, un texte de Guillaume Roy, paru le 19 septembre 2018 dans Québec Science. Des adaptations physiologiques apparues il y a plus de 2 millions d'années démontrent que l'humain a évolué pour courir. Aujourd'hui, les coureurs d'endurance misent sur ses capacités pour repousser leurs limites. Franchir 125 km dans les montagnes de Charlevoix est un bon défi pour une randonnée d'une semaine, mais aux yeux de certains athlètes d'endurance, le parcours se boucle en moins d'une journée. Ce type de course extrême a le vent en poupe. Rien qu'au Québec, on retrouve désormais 4 courses en sentier de plus de 100 km, alors qu'il n'y en avait aucune il y a tout juste 5 ans. En Amérique du Nord, le nombre d'ultra-marathons, des courses de plus de 42,2 km, a bondi de 183 à 1473 entre 2000 et 2016, selon le site spécialisé ultrarunning.com. Les ultra-coureurs prolifèrent au même rythme. Uniquement en 2017, ils sont plus de 79 000 à avoir complété des courses extrêmes, dont 12 059 ont couvert un parcours de 160 km, presque 4 marathons. Une distance qui donne le tournis, mais qui ne suffit pas pour certains. Pendant le Tour des Géants, une course disputée en Italie, les athlètes parcourent 335 km et la succession d'ascensions équivaut à un dénivelé positif de 24 000 mètres, soit environ 3 fois l'Everest. Pour le commun des mortels, courir l'équivalent de plusieurs marathons quotidiennement, en montagne, pendant des jours, peut paraître surhumain. Avec de l'entraînement, certaines personnes peuvent supporter l'inconfort très longtemps car la fatigue touche moins les muscles que le système nerveux pendant une course d'endurance, dit Guillaume Millet, physiologiste de l'exercice à l'Université de Lyon, qui étudie l'effet de la fatigue sur les athlètes. Il n'y a pas que des athlètes surentraînés qui y parviennent. En Inde, un gamin de 4 ans a franchi 60 km en 7 heures, alors qu'une jeune Chinoise de 8 ans a couru 65 km par jour pendant 55 jours, cite en exemple Guillaume Millet. Une étude publiée dans Frontiers in Physiology en avril 2018 a d'ailleurs démontré que le profil métabolique et la capacité de récupération des enfants est similaire à ceux des athlètes de haut niveau, voire parfois supérieure. L'humain serait-il fait pour la course? C'est ce que pense le paléo-anthropologue Daniel E. Lieberman, qui étudie le fonctionnement de l'organisme et la façon dont il a évolué depuis plusieurs millions d'années. Les coureurs d'ultra-marathon ne sont pas surhumains. Ils ne font que repousser les limites de la course d'endurance, soutient-il. Selon lui, les premiers représentants du genre Homo ont acquis cette résistance incroyable et les propriétés biomécaniques qui la sous-tendent il y a plus de 2 millions d'années. Lorsque les premiers primates sont devenus bipèdes il y a 4,4 millions d'années, ils sont devenus lents et vulnérables, note celui qui dirige le département de biologie humaine évolutive à l'Université Harvard. Mais l'évolution a rebattu les cartes en sélectionnant les individus les mieux adaptés à l'activité de chasse et de cueillette. Parmi les traits sélectionnés, outre la coopération et de plus gros cerveaux, il y a la course. C'est d'ailleurs une des clés pour comprendre l'évolution de la structure du corps humain, car on retrouve plusieurs caractéristiques qui ne servent qu'à cette activité, assure Daniel E. Lieberman. Prenez le talon d'Achille. C'est un ressort très efficace pour courir, mais il n'apporte aucun bénéfice biomécanique pour la marche. Idem pour la cambrure du pied. Ces adaptations, qui agissent comme des ressorts, permettent de stocker près de 50% de l'énergie nécessaire lorsqu'on court, et cette énergie est restituée à chaque foulée, remarque le chercheur qui, en collaboration avec le biologiste Denis Bramble, a rédigé le premier article scientifique sur l'importance de la course dans l'évolution humaine, lequel a été publié par Nature en 2004. Quand on se compare au chimpanzé, notre plus proche cousin chez les primates, on constate plusieurs autres différences physiologiques, ajoute Daniel E. Lieberman, qui a publié, depuis, une dizaine d'études portant sur le sujet, ainsi que le livre « The Story of the Human Body » en 2013. Nos orteils sont plus courts pour éviter de les briser en courant, et nos jambes sont plus longues pour nous permettre de faire de grandes foulées. Et nous avons de grosses fesses. Le grand fessier qui connecte les jambes au bassin sert à stabiliser le corps, et on l'utilise seulement lorsqu'on court, soutient-il. Des épaules plus basses et l'apparition du ligament nucal au niveau du cou font aussi partie des adaptations majeures qui permettent de stabiliser la tête pendant la course. Vous écoutez « Le corps, une machine conçue pour la course », un texte de Guillaume Roy, paru le 19 septembre 2018 dans Québec Science. Des femmes bioniques? Les femmes sont moins fatiguées sur le plan musculaire après une course d'endurance, selon les données recueillies lors d'une étude réalisée après l'Ultra Trail du Mont-Blanc, une course de 166 km dans les Alpes françaises. Les femmes sont soit plus résistantes à la fatigue, soit elles gèrent mieux leur niveau de fatigue que les hommes, commente le physiologiste de l'exercice Guillaume Millet, avant d'ajouter que davantage de recherches est nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes. Chasseurs endurants. C'est pour échapper aux prédateurs, mais surtout pour nourrir leur clan, que les hominidés du genre Homo sont peu à peu devenus de vraies machines de course. Tous les carnivores doivent courir pour attraper leur proie, poursuit Daniel Lieberman. Je ne vois pas pourquoi les humains feraient exception. Pas facile toutefois de rattraper une gazelle, un cerf ou un zèbre lors d'un sprint. Sans armes, les premières lances n'étant apparues qu'il y a 400 000 ans, nos ancêtres ont donc misé sur une redoutable tactique, la chasse à l'épuisement. Le plan consistait à courir longtemps après un animal pour le faire surchauffer jusqu'à ce qu'il s'écroule. Car le fait de courir génère beaucoup de chaleur. Et si la chaleur est produite plus rapidement qu'elle n'est dissipée, la température du corps augmente, a expliqué David R. Carrier, un biologiste pionnier dans l'évolution de la morphologie humaine, dans une étude sur le sujet publiée par Current Anthropology en 1984. En pourchassant l'animal à l'heure la plus chaude de la journée, ce dernier est rapidement incommodé et cherche à s'arrêter dès que possible pour abaisser sa température corporelle en haletant. En suivant les traces laissées par la bête, le chasseur peut toutefois traquer sa proie pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'elle ait trop chaud pour continuer. Et c'est justement parce que l'humain, lui, a une capacité unique lui permettant d'éviter la surchauffe, qu'il est gagnant à ce jeu-là. Nous suons plus par unité de surface que n'importe quelle autre espèce grâce à des glandes sudoripares qui n'ont pas d'équivalent dans le monde animal, soutient David R. Carrier. Et contrairement à la plupart des animaux, nous n'avons presque pas de poils. De plus, alors que les quadrupèdes doivent respirer une fois par enjambée, car leurs poumons sont comprimés pendant la course, l'humain, bipède, peut respirer plus librement lorsqu'il court, favorisant l'apport d'oxygène dans le corps, ajoute le biologiste. Toutes ces adaptations ont permis à l'homme de pratiquer la chasse à l'épuisement pendant des millénaires, jusqu'à la fin du XXe siècle, alors que plusieurs peuples autochtones, comme les Bushmen en Afrique australe, les Tarahumara au Mexique, les Navajos aux États-Unis ou les Aborigènes d'Australie, chassaient encore des proies ainsi. Cette technique a d'ailleurs été documentée par l'anthropologue Louis Liebenberg, qui a participé à plusieurs chasses à l'épuisement dans le désert du Kalahari dans les années 1980 et 1990. Aujourd'hui, la pratique est de plus en plus rare, car l'utilisation de fusils a changé la donne, mais cette extraordinaire endurance n'a pas disparu pour autant. Mieux, on en repousse sans cesse les limites. Dans le quartier Queens à New York, des coureurs complètent la 3100 Mile Race, 4989 km, en 52 jours, en faisant 5649 tours d'un pâté de maison près de Central Park. D'octobre 2009 à octobre 2010, le coureur français Serge Girard est allé encore plus loin en parcourant la distance de 27 012 km en un an, soit l'équivalent de 74 km par jour. Quelle distance quotidienne le corps humain peut-il ainsi tolérer? Difficile à dire, répond le physiologiste Guillaume Millet, car notre cerveau nous protège contre nos propres excès et chaque personne réagit différemment à la fatigue. Les deux seules limites réelles sont le manque de sommeil et la chaleur, ajoute M. Millet, car ils peuvent causer des hallucinations, un manque de jugement et ultimement la mort. Quoi qu'il en soit, nous aurions probablement tous intérêt à renouer avec le coureur qui sommeille sous les couches de civilisation moderne en chacun de nous. Nous ne sommes génétiquement pas faits pour être sédentaires, martèle Guy Thibault, directeur des sciences du sport à l'Institut national du sport du Québec. Et nul besoin de franchir des distances inimaginables pour bénéficier des effets de la course, car en plus d'améliorer le système musculo-squelettique, l'activité physique agit comme un antidépresseur, réduit le stress et facilite le sommeil. Prêt à chausser vos espadrilles? C'était Le corps, une machine conçue pour la course, un texte de Guillaume Roy, paru le 19 septembre 2018 dans Québec Science.